Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue sur Gymencast, le podcast qui s'adresse à tous les passionnés de gymnastique, signé Spot Gym. Je suis Elisa Cohen, et une à deux fois par mois, je vous emmène découvrir les acteurs et les actrices de la gymnastique rythmique comme vous ne les avez jamais vus. Gymnastes, entraîneurs, juges et bien d'autres, nous dévoilerons leur expérience, leurs anecdotes, mais aussi leur avis sur la GR dans des interviews exclusives. N'hésitez pas à commenter, à partager et à nous suivre sur nos différents réseaux pour ne plus jamais manquer une publication de gym. C'est avec un réel plaisir que j'accueille aujourd'hui Anne-Valérie Barrel, entraîneur de haut niveau en gymnastique rythmique, juge internationale et aussi commentatrice télé. Bonjour Anne-Valérie.
Bonjour Elisa.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant que vous nous parliez de votre parcours, pourriez-vous nous dire ce qui vous a amené à la GR ?
Alors écoutez, j'ai toujours baigné dans la gymnastique rythmique puisque ma mère elle-même était entraîneur d'un certain niveau, venant d'Europe de l'Est, de Hongrie. Elle a émigré en France et puis elle a trouvé aussi de quoi s'occuper en gymnastique et en danse en faisant l'école Irène Popard quand elle est arrivée en France, donc dans les années 1950, c'est quand même pas récent. Donc j'ai toujours baigné dans mon enfance dans cet univers de la gymnastique rythmique, mais quelque part ça nous saoulait un petit peu à la maison aussi parce que c'était son truc et qu'elle y passait beaucoup de temps, beaucoup de coup de fil, donc je ne m'y suis pas tout de suite attachée. Mais après, c'est venu assez naturellement, parce que j'adorais les disciplines artistiques. Moi, j'ai fait moi-même du patinage artistique pendant toute mon enfance. Puis à un moment donné, il a fallu me tourner vers des études artistiques. Et petit à petit, ça m'a amené à la gymnastique rythmique.
Donc l'ambiance familiale, c'était GR et patinage.
C'était GR et patinage et études aussi quand même.
Et du coup, vous avez une sœur, Anne-Sophie de Christophie, qui a été patineuse.
Absolument.
Donc quel rapport vous entreteniez avec, vous entretenez toujours avec votre sœur ?
On a toujours eu d'excellents rapports entre sœurs. Elle a patiné un petit peu après moi, on a 3 ans d'écart, je suis l'aînée. Donc on a été même confrontés parfois l'une contre l'autre. Et puis à partir du moment où j'ai vu qu'elle me dépassait, je me suis dit, peut-être que je vais m'orienter sur autre chose. Donc elle faisait du patinage individuel. Moi, je me suis orientée vers le couple, que j'aimais beaucoup. Mais malheureusement, j'ai eu pas mal de désillusions avec différents partenaires. Ça n'a pas forcément fonctionné. Donc du coup, j'ai continué à patiner pour moi, pour le plaisir, mais de moins en moins de plaisir, parce qu'il y avait sans objectif réel. Donc passer le bac, commencer des études supérieures et m'orienter vers la danse un peu plus.
Et donc le sport occupait quelle place en fait dans votre relation ?
Alors le sport, moi j'ai été toujours un soutien éternel de ma sœur parce qu'elle a continué quand même donc assez longtemps après que moi je me sois arrêtée. Et je l'ai accompagnée très souvent et aux entraînements et en compétition. Mon père la suivait énormément. Malheureusement, notre mère est décédée en 79, l'année de son bac. L'année de Sophie venait juste d'avoir son bac. Donc moi j'avais 21 ans et donc elle avait vraiment réellement besoin d'un soutien. Donc voilà, dès qu'elle partait en stage à droite, à gauche, même jusqu'aux États-Unis, à un moment donné, j'ai passé 2 mois avec elle aux États-Unis. Mon père m'a envoyé là-bas. Moi, j'ai vu le patinage de plus près parce que à cette époque, j'étais pas encore tout à fait décidée de ce que je voulais faire par la suite entre le patinage que j'avais quand même pratiqué, pour lequel j'étais diplômée comme entraîneur aussi, et la gymnastique rythmique ou la danse. Donc, ça m'a permis de voir des très grands entraîneurs en patinage aussi aux États-Unis. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à faire un peu les deux, et le patinage et la gymnastique. Et j'étais en fait la collaboratrice de l'entraîneur de ma sœur en France, M. Pellissier, pendant 2-3 ans, avant de me diriger plus définitivement vers la gymnastique rythmique.
Alors, votre mère a été quand même une grande figure de la gymnastique rythmique. Quel rôle elle a eu en France ?
Ma mère, je dirais qu'elle a donc enseigné à l'école Irène Popard, qui avait une association sportive qui s'appelait donc la FGHRD, dans laquelle elle a commencé à former des gymnastes, danseuses gymnastes pour la gymnastique rythmique. Et donc, elle a été une des premières au sein de la fédération à prôner cette discipline. Bon, elle n'était pas la seule. Il y avait Madame Berthe Villancher à l'époque, puis d'autres dont j'ai un peu oublié les noms, qui essayaient d'implanter cette discipline en France, qui n'était pas forcément simple, parce que la gymnastique artistique était très développée par rapport à celle-ci. Donc, il a fallu quand même bien batailler pour imposer cette discipline. Mais malgré tout, elle a réussi donc à envoyer la première équipe de France sur les premiers championnats du monde qui commençait à se créer au sein de cette discipline. Et elle était juge internationale aussi. Et elle a beaucoup œuvré pour que cette discipline devienne olympique, justement. Beaucoup de réunions au sein de la Fédération internationale de gymnastique ou de l'Union européenne pour que cette discipline devienne olympique. Et malheureusement, elle n'a pas vu cette chose se faire. Mais je pense que voilà, c'est arrivé. Donc c'est bien.
Et quel genre d'entraîneur elle était ?
Alors, c'est compliqué à dire parce que moi, j'avais un rapport filial avec elle. Donc, elle avait tendance à être extrêmement exigeante en ce qui me concerne, tout en n'étant pas trop non plus attentionnée dans ce que je faisais parce qu'elle ne voulait pas qu'il y ait de particularité ou de favoritisme. Donc, voilà. Mais après, à partir du moment où je me suis mis à faire de la gymnastique rythmique, ayant abandonné le patinage, j'avais un besoin de m'exprimer d'un point de vue sportif. Parce que voilà, je suis vraiment une sportive dans l'âme. Voilà, j'ai été élevée comme ça. Et donc, je me suis mis à la gymnastique rythmique à l'âge de 18 ans, quand j'ai commencé l'école Irène Popard. J'en ai fait pendant 3 ans. Et ça m'a tout de suite beaucoup passionnée. Et j'ai réussi assez facilement, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrence à l'époque. Et j'avais quand même quasiment une quinzaine d'années de sport dans les pattes. Donc j'avais quand même des qualités physiques qui s'étaient développées au travers de la danse que je faisais avec ma maman et puis au travers du patinage d'un point de vue renforcement musculaire. Donc c'est vrai que bon, il fallait apprendre les engins, ça c'est sûr. C'était pas forcément évident tout de suite. Mais voilà, ça s'est plutôt bien passé pendant 3 ans. Et donc on a partagé cette passion toutes les deux. Donc du coup, on s'est vraiment trouvé à ce moment-là, à tel point que moi je voulais vraiment me perfectionner dans cette discipline. Donc ma maman étant d'origine hongroise, elle avait gardé pas mal de contacts avec ses anciens entraîneurs, des vieilles dames de la gymnastique rythmique, mais qui ont quand même fondé cette discipline dans ce pays. Donc je suis partie 2 années de suite faire un stage pendant tout l'été, enfin un mois et demi on va dire, en Hongrie, toute seule. Pas très drôle toujours, mais je l'ai accepté, j'ai beaucoup beaucoup appris. Et donc ma maman, enfin bon, l'année quand je suis revenue, elle était encore en vie cette année-là. Elle était tellement passionnée par tout ce que j'avais vu, tout ce que je lui ai montré, etc. Donc, on a beaucoup échangé à ce moment-là et c'était très plaisant.
Quels ont été vos modèles d'entraîneurs ?
Alors moi, mon modèle d'entraîneur, c'est Nechka Robeva, c'est sûr. Entraîneur émérite bulgare des années 80, enfin un petit peu avant même, 75, 76, jusqu'aux années 90. Et c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur pour la gymnastique qu'elle prenait dans notre discipline et c'est profondément artistique, voilà, c'est toujours ce qui m'a animée. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait, maintenant tout ce qui est sur les réseaux, on voit toutes les compositions de tout le monde, de toutes les gymnastes. À l'époque, il n'y avait rien, il n'y avait même pas encore les cassettes VHS, enfin, ça, on n'avait rien. Donc, on découvrait un petit peu les compositions des gymnastes étrangère à l'occasion de grands tournois. Et il y a eu un des grands tournois français de l'époque, c'était le tournoi de Corbeil-Essonnes, que ma mère justement a créé avec le maire de Corbeil-Essonnes de l'époque, M. Combrisson, et M. Cosson, voilà, le directeur du Palais des Sports. Et à eux trois, ils ont fait d'un petit match au début, juste France-Allemagne-Hongrie, ils en ont fait un des plus grands tournois au monde, parce qu'à la après, il y avait quasiment 50 nations qui participaient à ce tournoi. Et donc, on découvrait chaque fois au mois de mai, parce que c'était toujours mi-mai, enfin, aux premières semaines de mai, les nations qui arrivaient, et notamment les Bulgares. Et moi, à chaque fois que... Enfin, mon premier choc gymnique en gymnastique rythmique, ça a été Iliana Raeva sur une sonate au clair de lune au ballon, où j'ai pleuré pendant tout l'exercice, tellement c'était extraordinaire. Voilà. Donc, cet entraîneur m'a toujours enthousiasmé par tout ce qu'elle a pu créer au travers de ses gymnastes, parce qu'il y avait, une histoire, il y avait une thématique, et ça, je trouvais ça fabuleux, et c'est ce qui m'a convaincu de continuer dans cette discipline.
Alors, j'aimerais qu'on revienne sur votre carrière. Pourquoi d'abord s'être professionnalisée dans la GER et finalement pas dans le patinage ?
Alors, c'est un peu un concours de circonstances. C'est-à-dire qu'effectivement, quand j'ai eu mes diplômes qui me permettaient d'enseigner aussi bien une discipline qu'une autre, j'ai eu l'opportunité de partir travailler sur la ville d'Évry, ville nouvelle d'Évry. Parce que le directeur des sports de cette ville nouvelle d'Évry avait rencontré ma mère lors d'un crêpes, au crêpes de Châtenay-Malabry, lors d'un stage équipe de France de l'époque, et est tombé sous le charme des gymnastes de gymnastique rythmique, où il a apprécié le contact avec ma maman. Et donc, quand il a pris la direction des sports de cette ville nouvelle, dans laquelle il y avait énormément de moyens mis pour développer le sport, les arts, etc., eh bien, il a contacté ma maman pour lui demander quel conseil sur un entraîneur. Et moi, je sortais juste, donc, je venais d'avoir mon brevet d'État, éventuellement, je cherchais à enseigner. Et ce qui m'intéressait à Évry, parce que je n'étais pas encore décidé, c'est que je pouvais faire les deux. Je pouvais faire le patinage et la gymnastique rythmique, ou en tous les cas, la démarrer, parce qu'il n'y avait quasiment rien. Donc, pendant quasiment 2-3 ans, j'ai fait un petit peu les deux. Et puis, je dirais que le patinage, à cette époque, était un peu ringard, entre guillemets. C'est un peu péjoratif, mais il n'y avait pas cette créativité que l'on sentait émerger dans la gymnastique rythmique. C'était, d'un point de vue musical, d'un point de vue, élaboration d'enchaînement, c'était beaucoup moins fouillé. Donc, progressivement, je me suis un peu détachée du patinage pour vraiment me consacrer à la gymnastique rythmique. Et c'est vrai qu'en l'espace de 2-3 ans, le club dans lequel j'officiais, c'est-à-dire le SCA 2000 Évry, qui existe toujours, a commencé à avoir des résultats. Et le directeur des sports m'a fait confiance dès le début et a voulu me donner les capacités de développer cette discipline au sein de ce club et d'en faire un club de bon niveau et voire de très haut niveau. Et donc, m'a donné la possibilité de créer une classe à horaire aménagé avec des gymnastes. Et voilà, il y a des parents qui m'ont aussi suivi parce que ça va pas sans les parents et sans les enfants. Et petit à petit, ça a été définitivement la gymnastique rythmique.
Et est-ce que l'objectif avec le pôle, c'était dès le début d'en faire une structure de haut niveau ?
Ça a pris du temps parce que au début, nous avions déjà la structure pour en faire un centre de haut niveau, c'est-à-dire le partenariat des collèges, des lycées, voire même d'une école primaire. On avait une salle qui nous était attribuée, qui n'était pas encore un gymnase, mais dans lequel on avait une totale autonomie. On pouvait aller 24 heures sur 24 si on le voulait. Mais le temps que je dirais que le ministère et la fédération valident notre structure, ça a pris quand même... Moi, j'ai commencé à Évry en 78 et on a eu cette structure en 87. Donc, ça a pris 10 ans, quoi, quasiment. Mais voilà, c'est venu. Mais ça n'empêchait pas qu'on fonctionne comme déjà une structure de haut niveau, mais il a fallu attendre un petit moment pour que ce soit validé par la fédération et le ministère Jeunesse et Sport.
Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans le haut niveau, dans cette carrière de haut niveau ?
Des difficultés, c'est jamais des métiers simples parce qu'on a un rapport avec l'humain, donc c'est la gestion journalière de jeunes enfants ou d'adultes ou d'adolescentes ou d'adultes avec tout ce que ça peut comporter de difficultés entre guillemets. Après le rapport avec les instances fédérales ou d'autres collègues, il peut y avoir aussi des difficultés. Mais à partir du moment où on discute et on a tous le même objectif, normalement, ça doit pouvoir s'aplanir.
Et quelles ont été vos plus grandes satisfactions ?
L'apothéose, quelque part, c'est de participer aux Jeux Olympiques de Barcelone en 92 avec deux gymnastes issus justement du SCA 2000, de ce centre d'entraînement. Donc ça a été une très très grosse satisfaction parce que c'était un peu espéré, pas forcément attendu sur deux gymnastes. On en espérait une et puis il y en a eu deux, donc c'était une vraie réussite. Et puis, je dirais que lors de ces Jeux Olympiques, malgré tout, la meilleure des deux gymnastes de l'époque, Christelle Sahuc, est rentrée pour la première fois dans l'histoire de la GR française dans les 20 meilleures mondiales. Maintenant, on est un peu plus haut, bien que parfois c'est un peu fluctuant dans les résultats, mais c'était une étape. Voilà, c'était une étape que d'accéder l'année d'avant au championnat du monde qui était qualificatif aux 25 meilleurs mondiales, de faire ce fameux concours des 25 meilleurs mondiales. Et puis l'année d'après, aux Jeux Olympiques, Christelle, il me semble, a fini 20e. Elle était dans les 20 meilleurs. Donc elle était très proche d'une des finales sur les massues, il me semble. Donc voilà, donc c'était une très belle expérience, très, très forte d'un point de vue émotionnel, très intense, ne serait-ce que défiler avec la délégation française dans ce stade de Montjouïs. C'était impressionnant, avec cette foule qui acclame l'équipe de France. Enfin, c'est des émotions dingues, quoi. Et puis, par contre, après, la compétition est très dure, très rude. C'est pas mal de stress, quand même. Voilà. Mais comme toute compétition mondiale ou européenne, c'est toujours... bon, on a un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il faut avoir des résultats, il faut que ça fonctionne. Enfin, c'est toujours à chaque fois... chaque année, voilà, chaque année, il faut remettre le... voilà, remettre le travail au centre de notre vie et essayer de faire progresser la GRS française d'une année sur l'autre, quoi. Ce qui n'est pas forcément évident.
Et comment gérer sa vie de famille dans un quotidien qui est rythmé entre des entraînements tardifs, des week-ends de compétition, des déplacements ?
C'est pas facile. Ça, je reconnais que j'ai un mari en or, parce que j'ai quand même 4 enfants, et qu'il a beaucoup géré les enfants, c'est évident. Bon, on avait quand même quelqu'un qui nous aidait à la maison aussi, mais c'est lui qui s'est beaucoup occupé des enfants l'été quand j'étais en stage. Je partais pendant un mois et demi en stage parce que derrière il y avait des championnats du monde ou des championnats d'Europe. Donc il se retrouvait un petit peu tout seul avec 3 enfants en bas âge. Le 4e est venu un peu plus tard, mais bon voilà. Donc ça n'a pas été simple, mais bon, on y est arrivé. Voilà. C'est une des grosses satisfactions quand même aussi de ma vie, c'est ces 4 enfants évidemment.
Et vous avez transmis votre passion à vos enfants ?
Alors pas du tout. Enfin, elles aiment beaucoup ce que je fais. Elles ont beaucoup aimé, je pense, ma carrière. Elles m'ont jamais reproché le temps que j'y passais parce que c'était, voilà, un moyen. C'était ma vocation. C'était mon équilibre professionnel était acquis, quoi. Mais c'est vrai que ça empiétait pas mal sur la vie de famille. Mais voilà, elle, j'ai justement, enfin, on habitait suffisamment loin des salles de gym pour qu'elle n'y aille pas, quoi, quelque part. Parce que, voilà, à Fontainebleau, il n'y avait pas de club de gym d'un bon niveau pour qu'elle puisse s'adonner à la gymnastique rythmique. Il y avait plus des centres d'équitation. Donc voilà, donc elles sont parties sur autre chose. Et quelque part, j'en étais assez contente parce que ça me permettait de voir autre chose aussi. Quand j'étais avec elles, je partageais leur vocation à elles, leur hobby, et ça me faisait découvrir d'autres milieux que j'ai plus ou moins appréciés selon les sports qu'elles ont pu faire. Mais comme tout un chacun, comme chaque parent, je me suis vue obligée de les emmener dans des gymnases à l'autre bout de Paris pour faire du volleyball, faire les terrains de concours de hippique sous la flotte. Enfin voilà, bon, mais bon, c'est la vie de chaque parent qui s'investit dans la passion de ses enfants. Donc c'était bien aussi qu'elle fasse autre chose. J'étais assez ravie là-dessus.
Quel serait votre meilleur souvenir professionnel ?
Je ne sais pas si j'ai un meilleur souvenir professionnel parce que, en fait, bon voilà, l'apothéose c'était les Jeux Olympiques, mais je dirais qu'à chaque fois que j'arrive à ce qu'une de mes gymnastes réussisse à son maximum, qu'elle soit championne ou pas championne, ça devient un excellent souvenir parce qu'on est arrivé au bout d'une partition qu'on a créée ensemble, qu'on a travaillée ensemble, et enfin, elle la réalise le jour J, à l'heure H, à la minute près. Et voilà, et ça crée des souvenirs, peu importe la catégorie, peu importe le niveau de la gymnaste, c'est l'aboutissement d'un travail de plusieurs années, ou d'une année, ou d'un moment. Et voilà, et donc, tout ça, ça fait d'excellents souvenirs, quoi.
Est-ce que vous avez fait des rencontres marquantes ?
Dans la gymnastique rythmique, voilà, moi, bon, la rencontre avec Nechka Robeva, évidemment, parce que par la suite, j'ai eu l'occasion de partir en stage en Bulgarie, de la rencontrer, de la côtoyer dans son quotidien. Bon, y a une vraie affection mutuelle, malgré tout, même si on se voit maintenant quasiment plus. Voilà, c'était quelqu'un d'extrêmement passionnant. Il y a elle, et puis aussi l'entraîneur belarusse, là, Madame Liparskaya. J'étais aussi partie avec l'équipe de France. J'ai fait 2 stages consécutifs en Bélarussie. Et la voir travailler, partager avec elle ses soucis du quotidien à l'entraînement, alors qu'elle avait les meilleurs gymnastes au monde, mais je me rendais compte qu'elle avait aussi... ben, des soucis, les mêmes que les miens, pas au même niveau parce qu'on n'avait pas des gymnastes au même niveau, mais ce souci du détail pour essayer de trouver ce qui va faire qu'elles vont être un tout petit peu meilleures que des autres qui sont déjà dans les 3 meilleures mondiales, ça montre à quel point ce travail ne s'arrête jamais, même quand on est déjà à très haut niveau, quoi. Donc c'était très passionnant de les rencontrer toutes les deux.
Est-ce qu'il y a des gymnastes avec qui vous avez créé un lien particulier et pourquoi ?
Alors oui, il y a quand même de mes anciennes gymnastes, j'en revois assez peu malgré tout. La toute dernière à très haut niveau, je suis toujours en contact quand même avec Aurélie Lacour, avec qui j'avais une affection particulière, parce qu'en plus elle a le même âge que ma fille aînée, donc. Puis après, je dirais que une fois arrêtée ma carrière de très haut niveau, je me suis retrouvée à entraîner dans des clubs, et dans un club en particulier, GRS Paris Centre, avec qui j'ai eu des contacts très privilégiés avec certaines de mes gymnastes, ça c'est évident.
Alors justement, vous avez quitté le haut niveau pour travailler en club. Est-ce que c'était un choix personnel ?
Non, ça n'a pas été un choix personnel, parce qu'en fait, on est entraîneur de très haut niveau, donc, mais si on ne réussit pas, quelque part, on vous limoge d'une certaine manière. Hein, on vous dit qu'on va prendre quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas assez bonne, donc on va faire venir un entraîneur étranger, ou on va faire autre chose, autrement, etc. Donc on m'a fait comprendre qu'ils n'avaient plus besoin de moi. Donc, du coup, je me suis retrouvée un peu, pendant 2 ans, à pas forcément psychologiquement être très bien non plus, parce que déjà, c'est une grosse remise en question de son travail depuis... ça faisait déjà presque 20 ans que je travaillais à Évry, que j'avais créé ce club, ce pôle, ce centre de haut niveau. C'était mon premier enfant, puisque c'était avant mes propres enfants. Et d'un coup d'un seul, je suis lâchée par la fédération quelque part, par mon pôle aussi, et qui me licencie. Donc ça a été quand même le coup de massue. Et qu'est-ce que tu vas faire derrière ? Bon, je me dis, il faut que je me remette en question. Je vais peut-être prendre un break d'un point de vue entraînement. Donc effectivement, on m'a donné la possibilité d'aller étudier pendant 2 ans à l'INSEP. Voilà, donc j'ai suivi des cours assez théoriques à l'INSEP qui ont été très intéressants, qui m'ont permis de voir le sport de haut niveau différemment aussi, donc c'était plutôt intéressant. Mais il fallait quand même gagner sa croûte un petit peu aussi, donc j'ai cherché à entraîner dans des clubs, donc je l'ai fait, j'entraînais dans des petits clubs, sans y trouver vraiment mon compte, c'était pas tellement simple. Et sortir du très haut niveau et de se retrouver au plus bas niveau, ça a duré comme ça pendant 2 ans. Et puis je dirais, coup de bol, Monsieur Bergeon, qui était le président du club de GRS Paris Centre, qui nous avait d'ailleurs confié déjà quelques gymnastes au sein du pôle d'Evry, m'a contacté. Il avait besoin d'un entraîneur. Et il m'a dit, Anne-Valérie, j'aimerais beaucoup que tu viennes, etc. J'étais un peu à l'INSEP encore, donc je n'ai pas pu complètement commencer d'un coup d'un seul à Paris Centre. Et puis, après 2 ans d'études compliquées, je dirais, parce que quand on a quasiment 50 ans, enfin j'en avais 48 à l'époque, se remettre aux études, c'était hyper dur, surtout d'un point de vue... des études dans le sport. Moi, je n'avais pas eu des études aussi poussées à l'époque quand j'avais étudié pour être entraîneur. Donc, j'avais quand même du mal à faire des dissertations de dingue sur des problèmes sportifs. Enfin bon, c'était compliqué. Donc, je ne m'épanouissais pas plus que ça. Et je me suis rendu compte que le terrain me manquait vraiment beaucoup. Donc, j'ai accepté après la proposition de Jean-Pierre Mergeon de venir travailler à GRS Paris Centre. Et puis, j'ai essayé de pousser ce club au maximum, comme je l'avais fait avant avec Évry. On est parti de... pas de rien, parce qu'il existait déjà depuis plusieurs années, mais il était plus loisir que compétitif, malgré tout. Et petit à petit, c'est devenu un des meilleurs clubs français.
Donc, sans regret, finalement ?
Sans regret, oui. Sans regret, parce que... je dirais que le très haut niveau, c'est passionnant, mais ça l'est pas moins que travailler passionnément en club, quoi. Pour moi, c'est la même chose, c'est le même travail. On a moins de facilité. Je dirais que le travail en club est parfois plus compliqué parce qu'on n'a pas les infrastructures, parce qu'on n'a pas le choix de gymnastes d'exception forcément, même si on en trouve quand même. On a des gymnases, on passe de l'un à l'autre. Enfin, on n'a pas forcément les mêmes facilités, surtout d'un point de vue infrastructure. Mais le travail, c'est le même, quoi. Quand on veut chercher à faire quelque chose d'impeccable, la rigueur, elle est toujours là, l'exigence, elle est toujours là, la collaboration avec les cadres qui vous entourent, et notamment le professeur de danse classique, Madame Catherine Janic, avec qui j'ai travaillé pendant 35 ans, c'est toujours la même chose.
On peut avoir le même niveau d'exigence en club et en pôle ?
C'est-à-dire que L'exigence, oui, au travers du niveau des enfants. Voilà. On pourra peut-être pas avoir des gymnastes aussi performantes en termes de difficultés techniques en club qu'en pôle, parce qu'elles s'entraînent deux fois ou trois fois moins. Mais, je veux dire, dans ce qu'elles savent faire, l'exigence est la même.
Et qu'est-ce qui diffère, finalement, entre le pôle et le club ?
Ce qui diffère, c'est qu'on n'a pas forcément les mêmes objectifs compétitifs, puisqu'on n'est pas sur l'élite. Voilà, on n'a pas tout à fait les mêmes objectifs compétitifs et on n'a surtout pas les mêmes conditions d'entraînement. Donc, si jamais on décèle un réel talent au sein d'un club, ben on va la former pendant 2-3 ans, tant qu'elle est très jeune, on va dire. Et puis après, si on veut vraiment, et si l'enfant a vraiment envie de faire du haut niveau et du plus haut niveau, faut lui donner la possibilité de partir en pôle parce qu'elle aura les conditions d'entraînement qu'il lui faudra. Alors que nous, on ne pourra pas lui offrir.
Et pour un entraîneur, ça procure moins de stress, moins d'enjeux d'être en club ?
Bon, les enjeux ou le stress, oui, est différent. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même épée de Damoclès sur la tête. C'est-à-dire qu'on se met nos objectifs nous-mêmes. Voilà. On se fixe nous-mêmes nos objectifs. Alors que quand on travaille au sein des équipes de France, les objectifs sont fixés par la fédération, par l'entraîneur national qui gère le haut niveau, ou le DTN, le directeur technique national. Alors qu'en club, voilà, on a notre équipe, nos enfants, nos gymnastes, et avec elles, on va se fixer des objectifs à atteindre, mais qu'on se fixe nous-mêmes. C'est nous qui on a notre propre ligne sportive. Et ça, c'est quand même agréable.
Vous regrettez ce qui est devenu Évry aujourd'hui, le pôle ?
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que là, depuis 3-4 mois, c'est assez récent, le pôle n'est plus à Évry. Il est parti sur Châtenay-Malabry, il s'appelle le Pôle Île-de-France. Bon. C'est un choix qu'ils ont fait et qui visiblement s'avère plutôt fructueux du fait des résultats que l'on a pu apercevoir il y a 15 jours. Je trouve que les gymnastes sont en évolution et visiblement les conditions d'entraînement sont peut-être meilleures et les entraîneurs ont l'air aussi plus sereins. Peut-être que voilà, l'environnement dans lequel elles évoluent ont l'air de porter ses fruits, quoi. Voilà. Après, ça fait un peu mal au cœur de voir cette salle à Évry qui existe, une salle spécialisée avec toute l'infrastructure qui est requise pour faire du haut niveau, actuellement n'est pas exploitée et qu'il n'y a quasiment plus de club, d'après ce que j'ai compris. Alors, j'espère que c'est juste momentané et que cette salle va rester une salle de gymnastique rythmique parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup des spécialisés. Qui vont trouver les moyens de redévelopper un club et d'exploiter au maximum cette infrastructure. Mais comme je disais, il faut trouver un entraîneur et trouver des entraîneurs en France actuellement, c'est pas simple.
Et qu'est-ce que représente aujourd'hui Paris Centre pour vous ?
Paris Centre, c'était ma deuxième famille gymnique après Évry. C'est un club que je n'ai pas créé parce qu'il existait bien avant moi, mais que je pense et j'ai développé à son maximum. J'ai tenté de développer à son maximum avec tous les cadres qui ont travaillé avec moi. Je n'étais pas toute seule, évidemment. On a été 4 ou 5 entraîneurs à chaque fois et en travaillant tous dans la même direction et en essayant de former des gymnastes du mieux possible et surtout chercher à donner une image de la gymnastique rythmique qui était propre à Paris Centre. Donc c'était quand même, voilà, c'était un bel objectif atteint de faire de ce club une vraie image particulière au sein de la gymnastique rythmique.
Alors pour réussir, les gymnastes, elles doivent allier discipline, rigueur. Mais est-ce que l'entraîneur peut obtenir ça que par l'autorité ou est-ce qu'il doit faire preuve de psychologie et d'adaptation en fonction des gymnastes ?
Oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, on est exigeant mais pas autoritaire. Enfin, je veux dire, c'est un partage quelque part. Tout ce qu'on leur inculte, tout ce qu'on leur transmet, à un moment donné, c'est pour les faire s'épanouir. Donc ça se fait pas forcément avec l'autorité, c'est plus de l'intuition aussi. Et puis, comme vous le dites, toutes les gymnastes ont des personnalités un peu différentes. Donc on a des gymnastes avec lesquelles on va agir différemment selon leur personnalité. L'entraîneur rébarbatif, je crois qu'il existe de moins en moins malgré tout. Maintenant, c'est plus vraiment un partage, une connivence avec l'athlète.
Qu'est-ce qui fait une bonne gymnaste ?
Je pense que, en dehors de ses capacités physiques à faire de la GR, Je pense qu'une gymnaste de haut niveau, elle a une personnalité qui lui est propre et qu'elle va réussir à développer et à, voilà, pour devenir une gymnaste un peu singulière au travers de sa personnalité. Et il faut espérer qu'elle ait l'entraîneur qui développe ce type de qualité aussi. Parce que les qualités physiques, elles doivent toutes les avoir à haut niveau. La souplesse, la dextérité à l'engin, voilà, la tonicité, etc. Ça se développe au travers de l'entraînement. Mais le petit plus, je pense que c'est lié à la personnalité de la gymnaste et justement à la connivence qu'elle va trouver avec son entraîneur.
Il y a des gymnastes avec qui vous n'avez pas eu du tout de feeling ?
Oui, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, je ne me rappelle plus leur nom. Non, mais c'est vrai que voilà, il y a des gymnastes avec qui ça ne se passe pas forcément bien parce qu'elles ne comprennent pas forcément où je veux en venir. Ou, voilà, on n'a pas forcément le feeling. Mais bon, comme je ne suis pas du genre à abandonner parce que je me dois de faire le maximum pour mes gymnastes, elles ont toutes le droit d'avoir autant d'attention de ma part, elles ont toutes le droit de progresser, donc quelque part, même si j'ai un peu moins de feeling, je vais faire en sorte que ça fonctionne, quoi.
Donc qu'est-ce qui fait un bon entraîneur ?
Je pense qu'un bon entraîneur, c'est déjà quelqu'un de passionné, de travailleur, parce que c'est beaucoup d'heures passées dans un gymnase, quelqu'un de rigoureux, mais aussi de chaleureux, quoi. Voilà, pour que les enfants viennent avec plaisir et tout ce qu'on leur donne, elles nous le donnent au centuple derrière, en s'exprimant sur un praticable, quoi.
Alors, vous êtes également juge international. Qu'est-ce que ça vous a apporté ?
Alors, moi, je suis juge, mais c'est pas vraiment ce qui m'a le plus passionné. Enfin, on m'a un peu obligée à passer mon juge national d'abord, puis après le juge international, parce que dans la carrière de mon entraîneur, c'est un plus, quoi. Voilà. Savoir aussi ce qui se passe au niveau du jugement. Donc, je l'ai fait et c'était intéressant. Voilà. Mais en fait, j'ai plutôt peu jugé dans ma carrière. Peu jugé parce que j'étais toujours entraîneur, donc du coup, je ne jugeais pas. Donc voilà. Mais je reconnais que c'est intéressant, mais c'est plus pour apporter quelque chose après aux autres entraîneurs ou à soi, d'avoir cette vision de juge et de dire, ben voilà, le juge, il perçoit ça, donc nous, en tant qu'entraîneurs, il va falloir qu'on fasse attention à certaines choses, quoi.
Alors, vous commentez aussi certaines compétitions internationales à la télé. C'est presque un autre métier.
Oui, moi, je ne le prends pas comme un métier parce que, déjà, je suis consultante, je ne suis pas la journaliste en chef. Et j'essaie d'apporter la caution, je dirais, technique de ma discipline pour que, justement, les journalistes ne disent pas n'importe quoi sur la gymnastique rythmique. Donc, j'ai à cœur de le faire parce que quand il y a des grandes retransmissions des championnats du monde, peut-être voir les JO, je ne sais pas, j'aime autant que ce soit bien commenté. Et qu'on n'entende pas parler de qui et de trucs comme ça, quoi.
Que pensez-vous de l'évolution de la GR en France et à l'international ?
Alors, en France, l'évolution de la GR, il y a deux. Je pense qu'en termes de licenciés, ça fonctionne plutôt bien. Je n'ai pas du tout le nombre de licenciés en tête, mais je pense que c'est une discipline qui plaît et qui se développe bien dans les clubs. Enfin, en tous les cas, dans la majorité des clubs, il y a quand même beaucoup de demandes et beaucoup d'enfants. Après, je dirais que le niveau gymnique global de la GRS, de la GR française, est un peu moyen quand je la compare à des pays qui sont autour de nous, comme l'Espagne ou l'Italie, qui ont un peu le même mode de vie que nous. Je pense que le niveau moyen est un peu en deçà de ces pays-là. Ce qui fait qu'après, sur le très haut niveau, on est un petit peu en retard, quoi. Voilà. Après, au niveau de l'élite internationale, c'est un petit peu la constatation de ce qu'on a fait avant. C'est-à-dire que pour le moment, on reste quand même un peu en deçà des meilleures nations. Il faut espérer que ça évolue dans le bon sens. Alors, il y a eu des épiphénomènes, et notamment Eva Serrano, voilà, qui était une gymnaste un peu hors norme, et peut-être la seule qu'on ait eue en France, qui a réussi à se placer parmi les 5 meilleures mondiales, qui a réussi à décrocher des podiums lors de championnats du monde, championnats d'Europe. Voilà. Mais depuis, on a un petit peu du mal à retrouver, je dirais, les 10 meilleures mondiales, quoi. Mais je pense que c'est un peu lié au fait que le niveau gymnique général en dessous n'est pas si bon, n'est pas suffisamment bon. À force de faire des catégories diverses et variées, je pense qu'on tire plutôt la GR vers le bas que vers le haut, quoi. Et tout simplement parce qu'on ne veut pas décourager les enfants, parce qu'il faut qu'il y ait des licenciés, parce que voilà, c'est en fait voilà, un peu l'opposition entre le très haut niveau et la masse. Mais je pense que ça pense plus sur la masse que vers le haut niveau, quoi.
Est-ce que vous aimeriez voir un changement dans la GR ?
Oui, au niveau international, j'aimerais, parce que à un moment donné, la gymnastique rythmique a été à un moment donné remise en question. On se demandait si elle allait rester aux Jeux Olympiques parce que c'était une discipline artistique. On ne voyait pas le côté assez sportif de la discipline. Donc en 2000, il y a eu un virage à 180 degrés du code de pointage, forçant sur la difficulté technique, corporelle, à outrance, des points, des difficultés extraordinaires à faire, etc. Incroyables. Parfois un petit peu à la limite du contorsionnisme ou alors un abus de grands sauts, etc. Donc, je dirais que grâce à ça, on a sauvé le côté olympique de la gymnastique rythmique parce que ça a été reconnu comme une vraie discipline sportive demandant des qualités vraiment extraordinaires. Mais on a du coup un peu perdu l'aspect artistique de cette discipline et je dirais que depuis des années 2000, donc ça fait déjà plus de 20 ans, on est quand même resté sur cette tendance la gymnastique rythmique vers la performance en négligeant un petit peu le côté artistique de la discipline. Donc là, sur cette nouvelle mouture du code qui est en vigueur là depuis un an et demi maintenant, jusqu'à 2024, ils ont essayé de prôner de nouveau la dimension artistique. Mais je pense que tant qu'on ne jugera pas la dimension artistique en valeur positive et toujours en négatif, elle ne sera pas forcément mise en valeur parce qu'on n'ose pas pénaliser des gymnastes moyennes. Et du coup, tout le monde se retrouve un peu avec la même note. Il n'y a pas de différence entre des prestations un peu exceptionnelles et des prestations de moyenne. Donc cette note artistique ne départage pas vraiment les gymnastes. Et donc c'est toujours la note technique qui va les départager. Donc il y a de nouveau un abus de gestes techniques pour avoir les notes, quoi. Donc l'artistique n'est pas très perceptible actuellement et c'est dommage parce que tout se ressemble, les prestations se ressemblent et j'ai moins de plaisir à regarder la gymnastique rythmique actuellement parce que tout se ressemble, quoi. Et contrairement à il y a 40 ans où on découvrait des prestations exceptionnelles, d'une émotion extraordinaire, il n'y a plus de prestations qui m'émeut à ce point actuellement. Mais peut-être aussi dû à l'afflux d'images qu'on peut avoir sur Internet et qu'on découvre et que du coup on revoit très, très régulièrement, donc il n'y a plus de surprise, quoi. Voilà. Mais je sais pas, la question de l'artistique, je pense que pour le moment, elle n'est pas encore complètement... On la valorise pas suffisamment parce que le code de pointage n'a pas été pris dans le bon sens. Je pense que pourtant, les Bulgares, je sais que lors de cette nouvelle mouture du code de pointage, avaient proposé justement un jugement positif, une autre manière de juger à l'artistique et ça n'a pas été accepté. Ils ont voté sur autre chose. Donc c'est en négatif et en fait, c'est pas vraiment pénalisé quand c'est moche, quoi.
Et quelle qualité possède la GR pour vous ?
C'est une discipline qui s'adresse à tous les enfants. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que je pense que de la petite gymnaste qui va venir s'amuser et s'initier à cette discipline, elle va l'aimer, à partir du moment où elle est bien enseignée, évidemment. Elle est extrêmement éducative, évidemment. Elle peut être extrêmement ludique, surtout au plus jeune âge. Et elle se fait en musique, on touche des engins, il y a une part d'acrobatie, il y a une part de qualité de corporelle à développer, de danse, etc. Donc je pense que c'est une discipline qui est très amusante à faire et qui peut toucher énormément de jeunes filles, voire de jeunes garçons maintenant, puisqu'il y a pas mal de garçons qui font aussi de la gymnastique rythmique. Et voilà, et donc à partir du moment où elle commence à aimer ça, après, c'est l'orientation vers la compétition ou pas, voilà, mais on peut au moins commencer en loisir et s'exprimer au travers de cette discipline et avoir beaucoup de plaisir à la pratiquer. Mais souvent, quand on a quelques gymnastes qu'on détecte et dont on voit le potentiel au jeune âge, on les oriente vers la compétition. Et après, c'est vrai que c'est beaucoup d'entraînement. C'est quelques contraintes, des stages pendant les vacances, pour pouvoir s'exprimer à son maximum. Après, ça peut en décourager certaines. Mais ça, c'est une question aussi, comme on disait tout à l'heure, de mentalité de l'enfant, des parents, de l'accompagnement de celle-ci, du partage qu'on va avoir avec elle. Mais je pense que c'est une très belle discipline pour beaucoup d'enfants. Et il y a beaucoup de gymnastes qui n'arrivent pas à s'arrêter. C'est sûr.
Et aujourd'hui, quelle place reste-t-il à la GER dans votre vie ?
Ben, je pense qu'elle est toujours présente parce que ça fait que quelques mois que j'ai décidé de prendre ma retraite. Donc pour le moment, je n'ai pas encore pas du tout coupé avec la gymnastique rythmique. En tous les cas, pas avec le club dans lequel j'ai enseigné jusqu'à il y a deux mois, c'est-à-dire GRS Paris-Centre. Je continue à suivre les compétitions nationales en élite puisque je suis convoquée comme juge. Donc j'ai toujours contact avec pas mal d'entraîneurs du haut niveau qui viennent me poser des questions, qui espèrent éventuellement mes conseils, et je le fais avec un grand plaisir. Donc ça reste encore très présent. C'est pas présent au quotidien comme ça l'était, parce que je vais pas sur les salles d'entraînement tous les jours, donc il m'arrive quand même des journées à pas penser à la GR. C'est ce que j'ai aussi souhaité, parce que c'est vrai que, comme je dis, pendant 44 ans, tous les matins, je me levais avec la GR dans la tête, qu'est-ce que j'allais faire, comment j'allais gérer un entraînement, quelle musique j'allais trouver, quelle composition, voilà, ça animait mes journées, c'était mon adrénaline permanente. Et là, maintenant, ça ne l'est plus. Ce n'est pas tous les jours que j'y pense. Donc, c'est bien. Et j'arrive quand même à combler ce manque ou ce vide d'un coup avec d'autres choses, surtout avec ma vie de famille. Et puis aussi faire des choses qui me font plaisir à moi-même, quoi. Voilà, pas seulement tout donner pour mes élèves, mais aussi pouvoir aussi, moi, me faire plaisir dans différentes activités sportives et puis être à la maison et avoir, voir grandir mes petits-enfants. Voilà.
Et pour conclure, si c'était à refaire, vous referiez tout à l'identique ?
Je pense que la gymnastique rythmique, oui, je referais vraisemblablement un métier dans le milieu artistique, sportif, sans doute. Après, est-ce que on apprend de ses erreurs, donc on progresse, hein, voilà, c'est pas facile d'être entraîneur. Quand on est jeune entraîneur, ben on est un peu tête brûlée, donc on veut faire tout très bien, très vite, alors que parfois faut prendre son temps. Donc voilà, si on devait le refaire une deuxième fois, il y a peut-être des choses que sur lesquelles j'éviterais d'aller parce que c'était peut-être des erreurs. Voilà, on apprend. Mais bon, c'est vraiment une profession qui m'a passionnée et c'était une vraie vocation et ça, je regretterai jamais ce que j'ai fait, quoi, ça c'est sûr.
Une carrière passionnante autant que cet entretien. Bah, merci beaucoup.
Et ben, merci Elisa de m'avoir invitée à parler de la gymnastique rythmique.
Ainsi se termine le podcast du jour. Un grand merci pour votre écoute. N'oubliez pas de commenter et de partager autour de vous afin d'encourager notre travail. À très bientôt pour un nouveau podcast sur spotgym.fr.